Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux pour la présentation d'un livre du collectif Mauvaise Troupe, Contrée, publié à l'Éclat. Contrée, histoire croisée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte notable dans le Val-Souza. Un livre publié le 2 mai qui fait suite à un petit livre qui a été publié en début de l'année qui s'appelait Défendre la ZAD et qui lui-même faisait suite à un livre qui a été publié il y a 2 ans qui s'appelait Contrée et qui se proposait. Constellation, qui se proposait justement de faire un état des lieux des différentes luttes en France et en Europe. Contrée, là, cette fois-ci, se consacre exclusivement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et la lutte du Notave, donc de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Ma première question, et pour introduire en fait le projet, c'est quelle est l'origine de cet ouvrage et pourquoi parler effectivement de ces deux luttes qui sont à la fois différentes et qui ont quand même beaucoup de points en commun.
Alors, bonjour, bonsoir. Pour remonter un peu à la genèse de cet ouvrage, donc il fait suite, comme vous disiez, à la publication de Constellation. Constellation, c'est un livre qui répertorie un certain nombre d'histoires, soit que le collectif d'écriture duquel on faisait partie avait directement vécu, soit qu'on allait recueillir autour de nous. Pour essayer de rendre un peu perceptibles des tentatives politiques qui s'inscrivent mais qui ne sont pas forcément visibilisées dans le champ public parce qu'elles sont hors des organisations type parti ou syndicat et qui correspondaient un peu à ce qu'on avait traversé, vécu au cours des années 2000. Et à la fin de la rédaction de Constellation, qui est sortie en 2014, et la lutte à Notre-Dame-des-Landes commençait à prendre vraiment beaucoup de temps dans notre vie un peu à tous, de façons différentes. Peut-être on reviendra un peu sur notre implication dans cette lutte, mais en tout cas, ça nous semblait un peu un gros morceau qui avait été très peu abordé dans Constellation. Et on s'était dit qu'on avait envie de relater un peu cette histoire-là. Et il se trouve que par ailleurs, il y a aussi d'autres membres du collectif qui commençaient à passer un peu de temps donc dans le Val de Suse italien et à rencontrer de manière un peu plus distante la lutte contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Et que ça nous semblait pertinent de croiser ces deux histoires. On va revenir un petit peu dessus, donner les éléments de compréhension de ce que c'est que ces deux histoires de lutte. Et donc voilà, l'objectif, c'était de faire circuler des récits de ces deux luttes-là. Donc je sais pas, peut-être pour donner 2-3 éléments de comment s'est passée la rédaction du bouquin, on s'y est attelé donc il y a maintenant 1 an et demi. On a commencé par faire plusieurs dizaines d'entretiens de chaque côté, italien et français, avec des parties prenantes de ces deux luttes. Et pour partir vraiment de la matière, du vécu, quoi, et essayer de construire à partir de là une histoire des luttes. Et donc, on a fait les entretiens pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis après, on s'est attelé à la rédaction. Donc, on est une dizaine dans le collectif d'écriture. Et peut-être ce qu'on peut dire dans cette phase de rédaction, c'est qu'assez vite, on a eu envie quand même que la matière qui était assez riche de ce qu'on avait recueilli puisse commencer à circuler. Donc, on a édité un certain nombre d'entretiens sous forme de petites brochures. Et puis après est venue la menace sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à l'hiver dernier, où il y avait de fortes présomptions de tentatives d'expulsion de la part des forces de l'ordre. Et donc on s'est dit, comme Contrée n'était pas encore prêt à sortir, qu'il y avait besoin de parler, d'appeler à défendre la ZAD. Donc d'où la sortie du petit bouquin au mois de janvier. Voilà, peut-être du coup je passe la parole à mes camarades pour dire 2 mots de la lutte à Notre-Dame-des-Landes et dans le Val de Suse.
Oui. Peut-être un petit détail, c'est que, enfin à préciser, c'est que le bouquin il est structuré du coup avec des extraits d'entretien qui sont agencés avec une sorte de mise en contexte un peu thématique. Donc il y a cinq chapitres, et le premier de ces cinq chapitres, c'est une sorte de travelling historique dans lequel on va essayer de rendre un peu l'histoire de ces luttes un peu plus dans le détail, dans les dimensions chronologiques. Et les chapitres qui suivent, c'est des thématiques qu'on avait envie de développer un peu plus avant et qui nous semblaient intéressantes pour faire aussi dialoguer ces deux luttes en fonction des forces qu'elles ont un peu en propre, notamment cette question des luttes populaires qui se revendiquent très fort côté italien. Et qu'on a renvoyé comme questionnement côté ZAD. La question des compositions et des formes de composition entre différentes composantes et différentes forces qui sont présentes dans ces luttes. La question d'une présence sur un territoire circonscrit et de comment le fait d'être quelque part à un endroit, une zone qu'on pourrait dire à défendre, en tout cas sur la ZAD, et une zone qui est menacée en permanence également en Val-de-Suse. Et le cinquième chapitre, c'est celui sur la manière dont ces mouvements ont pu rayonner bien au-delà de leur circonscription propre, on va dire, donc sur à la fois les territoires nationaux pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou pour le notaire en Italie, mais également au-delà à l'international. C'est une petite précision pour la structuration du livre. Et là, juste pour savoir un peu plus de quoi on parle, on se proposait de vous faire des présentations un peu historiques, mais en travelling rapide, en commençant par le notave. Et puis je laisserai la parole à Marc après pour la question de la ZAD. Notave, c'est un projet de train à grande vitesse qui rentre dans le cadre d'un projet européen qu'ils appellent le Corridor 5. Et le Corridor 5, il est censé relier à grande vitesse Kiev, en Ukraine, à Lisbonne, au Portugal. Entre les deux, il y a notamment les Alpes. C'est assez embêtant, des montagnes comme ça, quand on veut faire passer le TGV, surtout qu'il faut une certaine planéité pour pouvoir atteindre des grandes vitesses. Donc il s'agit de creuser un trou dans la montagne, entre le côté français et le côté italien, donc entre Lyon et Turin. L'essentiel du tunnel serait côté français. Et donc il s'agit d'un tunnel de 56 km, si je ne me trompe pas. Des fois je dis 53, mais je crois que c'est 56. Un des plus grands tunnels du monde. Et donc dans une vallée qui déboucherait dans cette vallée de Susa, côté italien, qui est juste derrière la frontière, juste quand on passe la frontière française vers l'Italie, il y a cette vallée qui s'étend, on va dire, depuis la frontière jusqu'à Turin, et qui est une vallée qui a déjà, par le passé, avant qu'il y ait ce projet de tunnel et de TGV, subi un certain nombre d'aménagements auxquels parfois d'ailleurs les habitants ont tenté de s'opposer, ou même réussi à s'opposer. Donc il ne faut pas non plus imaginer une vallée alpine merveilleuse et bucolique, c'est déjà largement lardé, notamment d'une autoroute, notamment d'une autre voie de chemin de fer, notamment pas d'une ligne THT, puisque par exemple dans les années 80, il y a eu une opposition au passage d'une ligne à très haute tension dans la vallée de Susa, qui, on va dire, fait partie un peu du ferment des choses qui font que les gens, quand ils commencent à lutter contre à s'opposer au TGV qui passerait en vallée de Suse, il y a déjà une histoire collective qui existe. Il y a déjà eu une lutte auparavant contre l'autoroute qui n'a pas été victorieuse, on va dire, puisque l'autoroute passe aujourd'hui, et qui même a donné une certaine leçon aux personnes qui s'étaient opposées, puisque notamment les écologistes étaient invités, une fois qu'il y a eu une opposition contre l'autoroute, à participer aux négociations. Et finalement, le résultat, ça a été essentiellement qu'ils ont pu labelliser l'autoroute autoroute écologique, mais ça n'a pas du tout empêché qu'elle se fasse. Je disais, pour ce qui est de la question de la lutte contre une ligne THT, par contre, ça a été victorieux. Et en 91, donc il y a ce projet. Et donc, il y a une opposition qui commence à émerger. Donc, le fait qu'il y ait un projet commence à se faire savoir. Il y a un comité qui commence à se créer, qui s'appelle le comité Habitat. Et pendant 15 ans, ça va être essentiellement de l'information à la population, avec des séries de réunions publiques, d'emplein. Donc, la vallée de Susa, c'est quand même 70 000 personnes. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Et donc des réunions publiques dans beaucoup de villes de la vallée, avec également à un moment des sorties aussi côté français pour tenter de sensibiliser un peu la population française à cette question-là. Et jusqu'en 2005, il se passe essentiellement une série d'explications et de contre-expertises pour démontrer à la fois que l'autoroute n'est ni nécessaire ni intéressante pour qui que ce soit. La ligne à grande vitesse. Merci. En 2005, les travaux, il y avait déjà eu un peu des tentatives de forage qui avaient pu être empêchées, pas tout le temps, mais voilà. Et en 2005, il y a quelque chose de l'ordre vraiment le début des travaux qui s'apprête à commencer. Et la population décide de mettre une sorte de campement permanent. Alors, c'est une sorte de cabane, un espace dans lequel les gens qui s'opposent au TAV, donc TAV, c'est train à grande vitesse en italien. Donc ils vont pouvoir se retrouver sur cet endroit qui s'appelle un presidio, Présidio, c'est pas trop traduisible en français, mais on pourrait considérer que c'est une sorte de point de rassemblement qui, au niveau militaire, peut aussi signifier garnison, mais ça, c'est pas, ça peut pas être traduit précisément. En tout cas, ce Présidio de Venaus, donc c'est le lieu sur lequel le chantier doit débuter, réunit beaucoup de monde qui passe régulièrement, etc. Et il va y avoir plusieurs affrontements avec la police qui tente évidemment de commencer les travaux, alors même que les gens s'opposent aux travaux. Et donc, il y a une sorte de série de d'opposition, d'expulsion, de réopposition, etc., jusqu'au moment où toute la population va venir, en grand nombre, plusieurs dizaines de milliers de personnes, marcher sur le Présidio et donc le chantier que la police voudrait commencer, et finir par virer les policiers et instaurer ce qu'ils appelleront à cet endroit-là la Libre République de Venaus, qui est un espace finalement où la lutte depuis la vallée finit par se cristalliser à cet endroit-là et devenir un espace collectif qui va durer seulement quelques jours parce que la police revient, expulse violemment les personnes qui étaient présentes. Enfin, c'est des coups de matraque sur tout le monde à 6h du matin, etc. Et là-dessus, il y a une grève générale qui va être décrétée dans la vallée et les gens vont revenir à nouveau. Et c'est à nouveau des dizaines de milliers de personnes qui vont expulser la police, et cette fois-ci pour qu'elle ne revienne plus, avec vraiment quelque chose où ça va arrêter le projet pour un temps. Donc la réaction du gouvernement italien à ce moment-là, c'est de mettre en pause et de créer ce qu'ils ont appelé, j'ai perdu le nom, ce serait l'équivalent de la commission du dialogue à Notre-Dame-des-Landes, sauf que ça dure plusieurs années, et c'est une sorte de commission gouvernementale qui vise à expliquer aux gens pourquoi c'est bien qu'il y ait un TGV ici. C'est pas là où c'est comparable à l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il ne s'agit pas de dire est-ce que vous êtes pour ou contre le TAV, c'est il faut faire de la pédagogie à l'endroit de la population qui est trop bête pour comprendre qu'il y a besoin, en tout cas c'est ce que veut faire comprendre le gouvernement. Donc ça va rester un peu en pause, jusqu'en 2011, je passe sur beaucoup de choses, mais en 2011, un nouveau site est déterminé pour les travaux et pour donc faire la sortie du tunnel qui arriverait en vallée de Susa, et donc c'est le site de la Maddalena. Et donc ce site est connu et il va y avoir à nouveau une occupation, et cette fois-ci c'est une occupation qui va durer pendant assez longtemps sur un Présidio, et donc qui va durer 40 jours, cet espace qu'ils vont appeler la Libre République de la Maddalena, et qui à la fin, un peu comme celle de Venaus, mais après avoir duré plus longtemps et avoir laissé quand même des traces très 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 fortes, très intenses dans la mémoire de beaucoup de gens qui ont participé à ça, finir par se faire expulser par la police. Et là, il y a ce souvenir de Venaus et donc la possibilité, l'éventualité de revenir pour continuer à s'opposer. Et cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Donc ça donne une sorte de bataille rangée très intense avec tout le monde. C'est toute la vallée. Je faut préciser quand même que sur une vallée de 70 000 personnes, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'implique et qui se sent partie prenante de cette lutte. Et ce n'est pas seulement des personnes qui, par exemple, viendraient des villes en étant déjà issues d'une tradition militante. C'est beaucoup de personnes qui simplement habitent cette vallée et ne veulent pas voir ce projet se mettre en place, ce train à grande vitesse, pour plein de raisons qu'on ne va pas non plus détailler ici. Le résultat, c'est que la police et les entrepreneurs ont eu le temps de construire une sorte de fortin imprenable. Et que de fait, après des affrontements très intenses qui concernent vraiment beaucoup de monde, ils n'arrivent pas à reprendre les lieux. Et il y aura une série, d'inculpations policières à l'issue de... Alors pas immédiatement, mais il y aura toute une série d'enquêtes sur la base de vidéos, etc. Et donc on va rentrer dans une autre phase du mouvement, où après avoir affirmé pendant des années « le TGV ne passera jamais en Val-de-Suse », à partir de 2011 et de cette bataille perdue, le discours des Val-Susains devient il faut stopper la progression des travaux qui, de fait, ont commencé, mais qui n'iront jamais jusqu'au bout. Depuis cette phase, ce moment-là, on va dire depuis 2011, on est sur une phase un peu différente où il y a eu les conséquences de cette confrontation très large d'ordre vraiment, on va dire, d'une sorte d'insurrection de la vallée hein, contre la présence policière qui visait à permettre le chantier. Et donc une répression très sévère derrière avec des dizaines de personnes, 53 personnes qui sont passées en procès pour prendre au total 140 années de prison à eux tous ensemble, et sans compter des centaines de milliers d'euros d'amende. Je passe aussi sur d'autres formes d'inculpation. Il y a encore d'autres tentatives qui ont été faites à partir de ce moment-là de la part de certaines parties du mouvement, et qui ont été ensuite défendues aussi par tout le mouvement, qui ont été les sabotages directs de machines qui, pour les empêcher directement de travailler. Et notamment un autre moment important là-dedans, c'est un sabotage d'une foreuse où des personnes se sont organisées pour aller dans un tunnel sur lequel la foreuse travaillait et incendier une machine pour stopper les travaux. Derrière ça, il y a une assemblée du mouvement Il faut voir aussi, je ne l'ai pas précisé, mais que le mouvement est quand même ponctué d'assemblées assez régulièrement, qui réunissent plusieurs centaines de personnes. Et cette assemblée va dire, cette nuit-là, nous y étions tous. Nous étions tous présents parce que tous, on pense qu'on est passé par toutes les voies légales, on est passé par toutes les voies de contestation, on n'a jamais pu être entendu. Et de fait, si à un moment donné, des gens se mettent à empêcher physiquement par les moyens qui peuvent la progression du chantier, on considère que nous étions tous dans cette action. Sauf que, évidemment, la réaction, celle-là, je n'ai pas précisé qu'elle est en réaction au fait qu'il y a eu des arrestations après cette action et que les personnes ont été arrêtées et inculpées sous l'échelle d'inculpation de terrorisme. Et que du coup, c'est quelque chose qui, depuis lors, le procès a eu lieu. Le chef d'inculpation de terrorisme est tombé, n'a pas été gardé, mais pour autant, ils ont pris des peines très lourdes. Et donc, la situation actuelle, voilà, je vais m'arrêter là pour ce travelling-là, c'est qu'il y a l'envie de trouver de nouvelles voies, des actions qui continuent à se faire, des rendez-vous très réguliers, des personnes qui vont marcher sur le chantier simplement pour y aller, pour aller voir, pour montrer leur présence, pour dire qu'ils s'opposent et qui continueront à s'opposer, des rendez-vous différents, de plein de types, voilà, des marches, des manifestations, des événements un peu plus culturels, mais qui visent aussi à renforcer l'opposition, et cette lutte contre la répression qui s'est abattue assez fortement sur les notables. Je te laisse la parole.
Ok, alors moi, j'habite à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD. Je fais partie de ces personnes que les médias appellent les zadistes. J'habite depuis plusieurs années là-bas et comme un certain nombre de personnes qui ont écrit ce livre. Et aussi, si on a écrit ce livre, si j'y ai participé, c'était aussi comme un acte politique et comme un acte dans la lutte et comme une manière de défendre le lieu où j'habite et d'y participer, comme on y participe de plein d'autres manières. Et là, on est dans un moment un peu particulier. Je vais revenir du coup en quelques mots aussi sur l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. De nouveau, on en est à un énième rebondissement, et on a entendu parler, vous en avez sûrement entendu parler dans ces jours derniers, du contexte très particulier dans lequel on parle, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu un référendum où les habitants du département de Loire-Atlantique étaient appelés à se prononcer sur la question de l'aéroport. Et du coup, on est de nouveau dans un contexte où, à l'issue de ce référendum, le gouvernement annonce qu'en octobre prochain, il viendra détruire la ZAD et commencer les travaux du projet d'aéroport. Et nous, face à ça, on a annoncé évidemment qu'il n'y aurait pas d'aéroport et que la lutte continuait, qu'on restait habité là, et avec un soutien de l'ensemble du mouvement, des paysans, des associations, etc. C'est juste pour recontextualiser un peu là d'où on en est, et pour dire qu'aussi, là, ces derniers jours, on a vécu des moments un peu bouleversants, assez intenses, qui étaient ponctués de chantiers, d'assemblées, de moments là pour se dire comment cette lutte, elle continue après ce piège-là qui nous était tendu par le gouvernement. Et en fait, cette lutte-là, on en parle énormément depuis 2012, depuis le moment où 2000 policiers ont tenté de venir expulser la ZAD et ont été mis en défaite par plein de gens, par des milliers de personnes, de manière assez incroyable. Mais c'est une lutte qui date de beaucoup plus loin dans le temps. En fait, c'est une lutte qui est vieille de 40 ans, qui a commencé dans les années 70 sur un coin de bocage en fait, qui est à 20 km de Nantes. Et sur lequel, à l'époque, se projetaient déjà des aménageurs qui avaient des projets mégalomaniaques d'agrandissement de la métropole, de faire atterrir le Concorde dans la zone ouest. Et voilà, avec les rêves de développement, de progrès économique, productiviste, classique, qui sont les mêmes depuis des décennies et auxquels nous, on a décidé de se confronter. Et à l'époque, nous, évidemment, on n'est pas là. Les premiers qui réagissent, c'est en fait les personnes directement concernées, les personnes dont on dit qu'ils habitent sur un territoire désert, inutile, une espèce de bocage comme ça, un peu qui serait abandonné, inintéressant, sur lequel il serait évident que pourrait venir se poser un projet d'aéroport. Et ces personnes-là, qui habitent dans les villages, qui sont les paysans du coin, elles se sentent vraiment pris pour des imbéciles. Elles voient des reportages à la télé qui expliquent qu'ils sont rien, que la zone sur laquelle ils habitent, ils sont rien. Et ils commencent à s'organiser eux-mêmes, de la même manière que dans le Val Sousa, pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire, un aéroport qui s'implante quelque part, comment ça te pourrit la vie à plein de niveaux, comment ça fait disparaître de base les terres, les maisons sur lesquelles tu habites, et qu'est-ce que ça vient installer dans la vie des villages. Et à la base, en fait, il y a des associations pendant toute la décennie 70, des agriculteurs qui se forment en collectif et qui disent « on ne se laissera pas faire, on ne partira pas », qui sensibilisent les gens. Et en 74 est déclaré, il y a un décret qui dit que les 2000 hectares de bocage qui doivent disparaître, être bétonnés pour le projet d'aéroport, deviennent une zone d'aménagement différée, donc la dite ZAD, qui s'est transformée depuis en zone à défendre au fil de la lutte. Et à l'époque, pendant 10 ans, leur combat, c'est d'essayer de ne pas partir, d'essayer aussi, malgré les interdictions, que des nouvelles fermes puissent s'installer, que les terres ne retournent pas en friche, et puis d'analyser qu'est-ce que c'est ce projet d'aéroport. Et en fait, à force de lutte, aussi pour des raisons de crise économique, de changement de priorité dans les projets de développement de la région, pendant quasi 2 décennies, 80-90, le projet il est mis dans les cartons. Il est repoussé, on n'en parle plus tellement. Et la lutte, elle renaît au début des années 2000, au moment où le gouvernement Jospin, et il décide de se dire « Ah mais oui, c'est d'actualité de nouveau. » Il y a Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, qui dit « Ah, c'est quand même pour le prestige de Nantes, de l'Ouest, du développement. » Absolument indispensable qu'on fasse ce projet de grand aéroport. Et à ce moment-là, il y a des nouvelles forces qui arrivent dans la lutte, qui sont notamment les associations citoyennes qui se regroupent autour de la CIPA, qui commencent à sensibiliser tout un tas de personnes dans la région sur des questions qui peuvent aller de la disparition des terres agricoles, la question du réchauffement climatique, la question du gaspillage de l'argent public, la question de comment des décisions sur ce type de projet sont prises de manière qui sont dites démocratiques, mais sur laquelle en fait on force les gens malgré leur avis et malgré leur opinion, sur la question effectivement de dans quel type de progrès on est. Et en fait, ça commence à toucher plein de gens du coin. Il y a des réunions publiques tout le temps et il y a des armes, des outils classiques dans ce type de lutte qui sont les recours juridiques, qui sont la contestation au moment de l'enquête publique, de la déclaration d'utilité publique, etc. Et sauf que, en fait, ces armes-là, à un moment, ne suffisent pas. C'est-à-dire que le projet continue. Que la déclaration d'utilité publique se fait et qu'au milieu des années 2000, il se trouve que les travaux sont censés démarrer, alors qu'il est clair d'ores et déjà que toute une partie de la population locale s'oppose très fermement à ce projet d'aéroport. Et face à ce sentiment d'impuissance et aussi l'impression que ces premiers outils de lutte ne sont plus suffisamment efficaces, il y a à ce moment-là des gens du coin en fait, qu'on décidait de rester parce qu'il y avait une grosse pression sur eux pour qu'ils partent pendant des années. Et du coup, ça faisait que des maisons étaient abandonnées, des fermes étaient abandonnées. En gros, le Conseil général achetait les gens, les forçait à partir, essayait de leur donner des compensations, de les remettre ailleurs, etc. Et ils voient la zone qui est menacée se dépeupler. Et du coup, il y a des personnes qui ont l'intuition, à un moment donné, le collectif qui s'appelle les habitants qui résistent, de dire, en fait, il faut qu'on appelle des gens à venir habiter et cultiver cette zone et qu'ils font un appel public, un appel qui est un peu historique, finalement, à dire, venez, on a besoin d'aide. Et à ce moment-là, au milieu des années 2000, c'est une phase de la lutte où des premières personnes, c'était pas encore les zadistes, des squatteurs, en fait, viennent à l'appel des habitants occuper des fermes, des maisons, commencer à faire des potagers progressivement. Il y a des premières manifs, il y a une première manif où il y a 2000 personnes comme ça qui viennent occuper un champ pour faire un projet agricole, etc. Et du fait qu'il y ait des personnes qui commencent à habiter sur place et pour qui c'est évident que s'il y a des travaux, il faut les stopper, il y a des premières actions directes pour empêcher les forages, pour empêcher le travail de compensation environnementale qui est fait par des boîtes d'écologie qui sont censées justifier que c'est un aéroport vert, écologique, haute qualité environnementale, qu'il y aura des déplacements d'espèces, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques dizaines de personnes qui s'installent, qui commencent à se lier aux paysans du coin, aux habitants. Et à un moment donné, Vinci, premier aménageur mondial, prend la concession du projet d'aéroport, dit qu'il va construire et créer ce projet d'aéroport. Et les travaux sont censés commencer au moment où le président Hollande arrive au pouvoir. Ayrault est premier ministre, c'est lui qui a poussé très fermement ce projet. Les habitants et paysans historiques font une grève de la faim très forte, très dure, qui va durer 2 semaines. Ils aboutissent à une négociation qui fait qu'eux ne sont pas expulsables avant l'issue des recours juridiques. Et par contre, le gouvernement voit de plus en plus que les squatteurs, les zadistes, c'est vraiment une épine dans le pied qui leur fait obstacle et qu'il faut les expulser. Et c'est là qu'arrive un peu le moment historique où en fait, il y a 2000 policiers qui débarquent dans le bocage. Et là, des gens qui commencent à s'opposer par plein de moyens différents, des barricades, des pierres, des maisons dans les arbres, qui s'assoient, qui se couchent sur la route, et plein de gens du coin qui commencent à amener du ravitaillement, qui commencent à passer sur la zone malgré les interdictions, les barrages, etc. Et là, je pense qu'il y a ce sentiment de fatalité qu'on ressent souvent dans l'époque, que, ben, on se sent assez impuissant face aux bulldozers, face à la police, quand bien même on se sent très légitime à combattre et que c'est toujours eux qui finissent par l'emporter. Ben, pour une fois, ce n'est pas le cas. Pour une fois, des gens arrivent à se confronter suffisamment fortement et avec suffisamment d'appui pour mettre en déroute la police, tant et si bien qu'au bout de 3 semaines d'expulsion et après la destruction de quelques maisons, il y a 40 000 personnes qui reviennent sur la zone le 17 novembre 2012 pour construire en 2 jours un village et un nouvel emplacement pour la lutte. Et puis après une nouvelle semaine de bataille dans les bois, de barricades, en fait, l'opération César finit, c'est-à-dire que le gouvernement sent qu'il perd pied, qu'il n'arrive pas à mener son opération à bien. Et du coup, on entre dans cette nouvelle phase de la lutte qui dure depuis 4 ans, où il y a cette conviction très forte qu'habite le mouvement et qui dit il n'y aura jamais d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On voit la victoire. Avant, on se sentait un peu petit, mais là, il y a vraiment la détermination qui est là. Et il y a aussi le fait que cette zone, tout d'un coup, devient une espèce de zone un peu libre, un peu différente, où la police n'entre plus, où les administrations habituelles n'ont plus cours, où il y a des centaines d'hectares qui peuvent être réinvestis, réhabités, où il y a toujours des menaces, mais sur lesquels commence à se réinventer une vie nouvelle avec des gens qui commencent à mettre en culture collectivement des terres, à habiter, à y mener un tas de projets différents. Des nouveaux habitants qui arrivent. À l'heure actuelle, on est environ 200 habités en permanence, avec aussi un certain nombre d'habitants et paysans historiques qui sont venus. Dans les 4 dernières années, il y a à divers moments le gouvernement qui dit « ça y est, maintenant on va pouvoir démarrer les travaux » et à chaque fois des grosses manifs, des grosses mobilisations qui arrivent à repousser la volonté du gouvernement de démarrer les travaux. Et puis là, on est effectivement dans une phase où, à l'hiver dernier, Valls annonce que ça y est, maintenant c'est plus possible d'attendre, que les recours juridiques sont évacués, etc. Il annonce que les travaux démarrent ce printemps dernier. Et là, pendant des mois, on va bloquer les routes, être à 20 000 sur le périph' nantais, à 70 000 sur les 4 voies autour de la ZAD, mener tout un tas d'actions, faire un convoi au moment de la COP21 pour se rendre à Paris en plein état d'urgence et malgré les interdictions et dénoncer l'hypocrisie du gouvernement qui parle d'un côté de sa préoccupation environnementale sur le réchauffement climatique et qui, dans le même temps, s'apprête à démarrer les travaux de l'aéroport. Et c'est une phase pendant laquelle la puissance du mouvement est tellement importante et éclatante que le gouvernement recule une nouvelle fois, se sent acculé. Et en fait, l'espèce d'issue qu'il trouve, c'est effectivement d'annoncer un projet de référendum et de tenter de redonner une légitimité dite démocratique au projet. Et là, nous, du coup, on vient de passer 2 mois avec l'ensemble du mouvement hein, à dénoncer l'arnaque que c'était, l'enfumage, en fait. Au sens où, pour nous, la manière dont était mené ce référendum était complètement illégitime, biaisée, avec des moyens complètement inéquitables en termes de moyens de campagne, de qui pose les questions, de qui fait le dossier, du périmètre choisi pour arranger le gouvernement. Et l'issue de ce scrutin, c'était dimanche dernier, où il y a eu un score où, effectivement, le oui à l'aéroport l'a emporté sur le périmètre qu'ils avaient choisi pour l'emporter. Où néanmoins, évidemment, tous les gens qui habitent dans les villages autour de l'aéroport et dans les pourtours proches ont dit qu'ils n'en voulaient pas, ou même les gens qui étaient dans les bourgs autour de Nantes, qui étaient concernés qui habitent autour de l'aéroport existant, dont on disait qu'ils voulaient absolument que ça parte à Notre-Dame-des-Landes, ont aussi voté finalement pas si clairement pour le transfert de l'aéroport. Et où surtout, en fait, nous, on a réaffirmé ce que je disais au début, que c'était pas cette consultation-là qui allait mettre fin à la lutte. Et où là, on est dans une phase où, de nouveau, on s'apprête à mobiliser très largement pour résister et pour continuer, non seulement contre le projet d'aéroport, mais pour continuer à faire vivre et à développer les formes d'expérimentation de vie, d'agriculture un peu hors cadre, hors normes, hors monde marchand qu'ont commencé à se mettre en place sur la ZAD depuis des années et qui sont vraiment inspirantes pour tout un tas de gens comme on le ressent assez quotidiennement.
On se proposait ensuite de vous lire quelques extraits du livre. Enfin, c'est des extraits, la plupart sont des extraits d'entretien. Il y aura un petit extrait aussi d'un des morceaux de mise en contexte parce qu'on le trouvait pertinent à lire dans le contexte d'aujourd'hui.
On était venu voir le chantier pour la première fois. On avait fait le tour par les bois et on descendait la route vers ces fameuses grilles. Il y avait là tous les corps de police ou d'armée désœuvrés à la fin de cet après-midi d'automne. C'est à ce moment-là que le car est arrivé. Il a eu toutes les peines du monde à se ranger tant c'est étroit, et une 30aine de personnes en sont sorties rapidement. Devant la grille, elles se sont mises à hurler des insultes aux carabiniers. Elles ne s'arrêtaient plus. D'où sortaient tous ces gens ? Que venait faire ici ce quart de tourisme ? Ce sont des Valsusains qui reviennent d'un voyage organisé à la mer. Avant de regagner leur maison, ils viennent crier un peu de leur rage. Nous a répondu tout naturellement Maria.
Alors là, ça va être Marisa, qui est retraitée et qui fait partie du comité de la Haute-Vallée à Chiomonte. On avait acheté ce morceau de terrain près du futur chantier pour s'opposer aux travaux en tant que propriétaire. Mais eux, ils l'ont pris militairement. Ils ont mis des grilles et des grillages sans aucune autorisation, avant même d'exproprier, avant même de faire les procédures. L'expropriation allait arriver plus tard, en avril 2012. Alors on a demandé à venir sur le terrain, avec un avocat et un géomètre, le jour de l'expropriation. Ils avaient déjà coupé les arbres, tout passé au bulldozer. Tu voyais plus, évidemment, tu voyais plus les limites. On était 7 à avoir fait la demande et aller à la constatation. Il y avait peut-être 2000 policiers et ils prenaient chacun des 7 séparément pour constater. Moi, j'étais la dernière. J'avais dit à des copains, des jeunes de Turin, que j'allais faire quelque chose. Et ils m'ont trouvé des menottes. Pour pouvoir faire vite, sans que ça se voie, je les avais mises sous ma veste, déjà accrochées à mon poignet. Je préparais un peu un happening. Le jour J, j'avais 3 policiers derrière moi, plus le géomètre, plus l'avocat et les journalistes. Il avait neigé la veille, le sol était détrempé. Je faisais mine de ne pas réussir à marcher avec ma canne et je me rapprochais du bord de la grille. J'ai tourné autour de la baïta. La baïta, c'est la cabane qu'ils avaient construite. Et puis j'ai dit, je dois aller au cabinet, je ne suis pas allé avant, je ne peux pas aller aux toilettes là-bas, donc je vais y aller ici. Alors je suis resté un peu en arrière et j'ai vu mes amis de l'autre côté du grillage, avec la police autour, bien entendu. Je suis parti vers eux en vitesse, et là, je me suis attaché aux grilles. Mais le géomètre et l'avocat, ils continuaient à mesurer. Personne n'avait vu que je m'attachais. Alors je me disais, ah zut, si tout le monde s'en fout, c'est que j'ai fait ça pour rien. Mais le problème, c'est que dans la précipitation, je me suis attaché un peu haut. Alors je pouvais ni me tourner, ni m'asseoir. Et finalement, bon, la police est arrivée, et ils m'ont dit, oh, des menottes, on va pouvoir les ouvrir, c'est des clés standards. Ils ont pris leur trousseau, mais aucune ne marchait. Parce qu'en fait, c'était des menottes de sex shop. Puis ils sont venus avec une pince. Mais comme toute l'attention était sur moi, pendant ce temps-là, les jeunes, mes amis, ils sont allés couper les grilles, ailleurs. Et 2 ou 3 sont rentrés dans le chantier. Alors là, les flics couraient d'un côté et couraient de l'autre.
Voilà. On repasse du côté de Nantes, en l'occurrence, mais sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes avec Claude, qui est un syndiqué CGT. Vous n'imaginez pas la peur que vous faites aux dirigeants des boîtes qui travaillent sur le projet d'aéroport. Quand le nom du directeur de mon entreprise a été diffusé sur le site internet de la ZAD, il a fait sous lui. Son bureau était le seul à avoir une porte de couleur. Sur 50 portes, c'est la seule qui était d'un joli rouge. Dans la semaine, il l'a fait repeindre. Ils ont aussi enlevé des voitures, tous les autocollants avec le nom de la boîte. C'est assez ridicule, mais ils l'ont fait. On ne se rend pas compte de l'impact de cette lutte chez ces gens-là. Et eux, ils ont peur de l'extérieur, mais ils ne se rendent pas compte qu'en interne aussi, il y a des gens qui peuvent être une menace. Moi, j'ai un peu parlé de ces histoires d'aéroports autour de moi au bureau, et les gens connaissent mon orientation. Alors quand c'est dans l'actualité, ils viennent essayer de me faire parler pour avoir un autre son de cloche. Les gens sont demandeurs de ça. Mais ils ne viennent jamais en groupe, toujours un par un. Il faudrait pouvoir communiquer vers ces gens-là. J'ai même eu des réflexions de petits patrons qui sont un peu perdus en ce moment, comme tout le monde. Ils ne savent même plus après quoi ils courent. Une fois, un m'a dit. J'essaye de suivre ça de près parce qu'à mon avis, c'est un laboratoire d'une autre société. Venant de la part de gens assez traditionnalistes, c'est étonnant.
Donc là, je vais vous lire un extrait de l'introduction de la partie du deuxième chapitre qui s'appelle Peuple. Et donc, comme on disait tout à l'heure, la lutte en Val-de-Suze se revendique beaucoup du peuple valsusain. Et ça nous semblait plus compliqué du côté de la ZAD de se revendiquer du peuple, et notamment la séquence du référendum est venue montrer en quoi cette notion de peuple n'était pas facile à manier dans le cadre de lutte politique. Et donc je vais vous lire le petit extrait qui parle de ça. La manœuvre ne manque pas de finesse. En appeler au peuple pour légitimer le projet d'aéroport, c'est tenter de priver l'opposition d'une bonne partie de son assise en lui disputant sa légitimité sur le terrain d'une certaine démocratie directe. Mais le mouvement, qui ne croit pas un soudain accès de démocratisme de la part du pouvoir, flaire le piège. C'est que, même sans s'en réclamer, Le peuple qui compte pour les anti-aéroports est celui qui cultive, se promène, travaille, aime, voyage, respire, en un mot, habite, sur le territoire concerné par le projet. Un territoire dont la géométrie varie selon que l'on considère l'aéroport sous l'angle du bétonnage, des nuisances sonores, du réchauffement climatique ou, pourquoi pas, de la possibilité offerte de se rendre à l'autre bout du monde en un saut de puce par-dessus les mers. Pour le gouvernement, seul importe les sondages qui donneront le bon périmètre pour le référendum, celui où les chances du « oui à l'aéroport » seront maximales. Le drôle de peuple, objet de la consultation, sera réduit à une opinion désincarnée et travaillée par des semaines de propagande massive et hontée des pro-aéroports, qui ont déjà dépensé des centaines de milliers d'euros en campagne de publicité ces dernières années. On ira voter oui sur la base des chiffres truqués de la Direction générale de l'aviation civile, du chantage à l'emploi, des calomnies anti-ZAD, et avec une conviction qui ne portera pas plus loin que le dépôt d'un bulletin dans une urne. Plus que sur les cœurs de la population, l'enjeu de la bataille autour du référendum porte sur sa définition. D'un côté, ce qui agit, ressent, pense et se démène tant bien que mal pour se faire un quotidien, et de l'autre, une opinion publique qu'on se contente de recueillir de temps en temps.
Autre bout de lecture, là on reste sur la ZAD, c'est Jean qui a été occupant au lieu qui s'appelle Les Rosiers. Comment je me suis retrouvé à Notre-Dame ? J'étais anarchiste, je revenais d'un séjour en Italie. Et là-bas, j'étais avec des gens qui étaient dans leur quartier, dans leur village, qui vivaient là tout le temps, qui connaissaient tout le monde. Et cet ancrage-là, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fasciné. À partir de là, je me suis demandé, mais en fait, je suis d'où ? Je me bats là où je vais, à la fac par exemple, ou dans les contre-sommets, d'un endroit à l'autre, et ensuite je rentre chez moi. J'avais l'impression que ma révolte était amputée, qu'elle était hors sol.
Et on revient dans le Val Susa avec un extrait pour finir d'Alberto, qui est une figure de la lutte. Les communautés de villages étaient souvent minées par les rivalités, et parfois composées de personnes qui ne se parlaient pas. Il ne faut pas en avoir une vision trop romantique. J'ai connu les vieux villages. Certes, tu ne peux pas mourir seul dans la rue, comme ça peut arriver à Turin, mais ce n'est pas idyllique non plus. Le contrôle social existe dans chaque communauté. Mais ici, c'est différent, parce que ces temps sont révolus. Le notave a créé autre chose. Par exemple, tu es en train de conduire. Il y en a un qui te coupe la route. Instinctivement, tu voudrais dire, tu aurais dit, va fanculo. Et tout ça, puis tu vois qu'il y a derrière la voiture un autocollant notave. Et tu te dis, ah ça va, laisse tomber. La lutte apparaît aussi dans de petits gestes comme ça. Il y a une fraternité. On ne se dispute plus bêtement avec un autre notave. Tu n'y arrives plus. Il te manque l'esprit, la volonté. Il y a quelque chose que tu as en commun. Même si on se dispute sur des choses, mais le plus souvent, quand il y a un désaccord, on fait un pas en arrière pour arriver à se comprendre. C'est la base du vivre ensemble, non ?
J'aimerais qu'on parle des mots employés, qui sont à mon avis importants, et notamment ce terme de ZAD, qui est une zone d'aménagement différé, qui devient ensuite une zone à défendre, et qui est expliqué dans le livre, devient juste ZAD en minuscule. Quelle est l'importance en fait, de cette réappropriation d'un langage au départ, d'une nouvelle langue technocratique, et de cette réappropriation justement par les gens qui luttent sur place ?
Effectivement, il y a eu, même si c'est périphérique dans la lutte, une lutte aussi au niveau du langage. Et l'histoire autour de ZAD, c'est assez intéressant. Une petite anecdote comme ça, en écoutant le jeu des 1000 euros la dernière fois, il y avait la question, qu'est-ce que veut dire le terme ZAD ? Donc la personne a tout naturellement dit zone à défendre. Donc la question portait sur le terme d'urbanisme, évidemment. Et donc ils n'arrivaient pas à trouver donc zone d'activité, non, zone d'aménagement. Oui, zone d'aménagement, alors peut-être zone d'aménagement dangereux, donc ça colle bien avec la ZAD. Et donc c'est assez notable quand même que pour le grand public, maintenant ZAD soit effectivement directement étiqueté zone à défendre et histoire de lutte. Et après, pour autant, donc il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et pour autant, on a essayé dans le livre de mettre en garde contre les étiquettes et contre les labels un peu. Et, euh, et, et faire en sorte que ZAD, ce soit justement le nom d'un esprit de résistance ou de l'affirmation qu'il est, comme on disait tout à l'heure, il est possible de résister, il est possible de l'emporter, mais pas une catégorie un peu close et bien définie de qu'est-ce que devrait être une lutte. Alors, pour certains, la ZAD, c'est avant tout la mobilisation citoyenne, pour d'autres, c'est avant tout faire des barricades. Et en fait, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est tout ça pris ensemble, et la ZAD dans, l'esprit de la ZAD dans d'autres territoires, ça pourrait être encore complètement autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de à la fois voir ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qui ressortait de force sur un plan politique dans ce terme de ZAD, dans le fait de pouvoir se revendiquer de ça. Moi, j'habite pas là-bas, j'habite pas très loin à Rennes, mais donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. Et pouvoir dire, voilà, ce qui se passe à la ZAD, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup, et pas juste pour défendre ce territoire, mais aussi pour ce qu'on essaie de mettre en place, de vivre sur Rennes, et ben c'est immédiatement compréhensible par plein de gens. Et donc, c'est aussi un peu comme ça un point de repère, un étendard, et en même temps, il faut aussi se méfier des étendards, et donc essayer de pas en faire un label. Et donc, il nous semblait que le sigle, dans ce que ça porte d'un peu technocratique toujours, même si c'est zone à défendre et pas zone d'aménagement différé, il y a un peu ce risque-là de tendre vers le label, et notamment après 2012, et puis au moment où à Sivens, sur la ZAD du Testet, la police a tué Rémi Fraisse, il y a eu tout un tas de zones qui sont revendiquées ZAD, ce qui était assez fort dans ce que ça a créé, et en même temps, il nous a semblé qu'il y avait là un risque un peu de copier-coller ou de labellisation ZAD qui n'était pas très intéressant. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de dire autour de ces termes.
Pour en revenir sur la lutte du Notav, comment expliquer qu'il n'y ait pas de lutte équivalente en France, mais de l'autre côté des Alpes, qui permettrait justement peut-être de regrouper des différentes luttes ensemble sur une opposition au même projet, puisqu'a priori, même du côté de Lyon, des gens s'opposent aussi à la construction de cette ligne à grande vitesse.
C'est une bonne question. C'est une question que se posent aussi les personnes qui, côté français, ne souhaitent pas voir passer le TGV et qui se demandent également comment on peut expliquer ça. Après, il y a quelques éléments, mais un des éléments, ça pourrait être déjà que le tunnel, le TGV côté français est largement souterrain. Il y a un tunnel de 53 km qui va passer. En fait, ce qui se matérialise côté français, et qui d'ailleurs est déjà construit pour plusieurs d'entre elles, c'est ce qu'on appelle des descendries. C'est des systèmes qui permettent d'accéder au tunnel, notamment, et qui feront par la suite les zones d'évacuation du tunnel. Et celles-là, il y en a plusieurs qui sont déjà construites. Il y a une opposition qui a tenté de s'affirmer, il y a un livre qui existe là-dessus. Il y a une personne qui est intervenue plusieurs fois à différentes occasions, qui s'appelle Daniel Ibanez, qui a fait un livre sur la question de l'opposition au TGV Lyon-Turin depuis le côté français. Mais il n'y a pas eu cette cristallisation. Alors moi, j'étais à Chapareillan, c'est une des villes qui se trouve sur la zone de passage côté français du train. J'y étais quand il y avait un rassemblement le 12 juin dernier. Et donc il y avait un appel, une invitation à venir. Donc il y a quand même un gymnase qui est réservé pour l'occasion. Il y a 500 personnes qui sont là, quoi. Et il y a quand même pas mal de gens qui sont prêts il y a une audience. Mais quelque chose qui serait lors d'une cristallisation qui va venir prendre corps, comme peut-être l'espace est moins circonscrit, moins clair sur une vallée qui coulerait comme ça depuis la frontière jusqu'à Turin, côté italien, c'est assez manifeste. Il y a une sorte de solidarité montagnarde qui est peut-être plus évidente, peut-être liée aussi à... Il y a une certaine tradition de résistance en Val-de-Suze, liée aussi à la guerre de 39-45. Il y a eu les luttes auparavant contre l'autoroute, contre la ligne THT, qui ont également structuré quelque chose. Et ça fait tout ça l'un dans l'autre. Ça fait des personnes qui se connaissent, ça fait des personnes qui ont déjà eu l'occasion de fonctionner ensemble. Voilà, ça c'est des éléments d'explication. Ensuite, sur le détail, qu'est-ce qui fait que des fois ça prend pas, j'ai l'impression que, à moins peut-être les camarades aient d'autres éléments de réponse. Et moi, je m'arrêterai là pour l'instant.
Après, sur la question qu'est-ce qui fait qu'une lutte prend, par exemple, si on prend du côté de Notre-Dame-des-Landes et de la Loire-Atlantique, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un terreau à cette lutte-là, quoi. En fait, si on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu'on est toujours sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qu'il y a les liens qui se sont faits entre des gens qui arrivaient avec leurs rêves et de résistance d'inventer d'autres formes de vie et avec des gens du coin, c'est aussi parce qu'il y a une histoire en Loire-Atlantique. Enfin, ce qui a aidé à ça, ce qui a pu permettre ça, et la détermination des gens, elle vient d'un côté, par exemple sur le fait que dans les années 70, en Loire-Atlantique, il y a un mouvement paysan qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire autour des paysans travailleurs qui est très présent au moment de mai 68 à Nantes, qui commence à former des liens avec les luttes ouvrières, qui commence aussi à revendiquer le droit d'usage face aux gros propriétaires qui d'ores et déjà dans les années 70, en fait, c'est pas nous qui avons inventé le fait d'aller squatter des terres. En fait, dans les années 70, il y avait des paysans de Loire-Atlantique, des petits paysans qui allaient prendre des terres de gros propriétaires, qui est aussi une histoire locale qui dit, en fait, il y a plusieurs centrales nucléaires qui ont été empêchées et arrêtées, des projets dont les populations ne voulaient pas. Du coup, dans les années 70, Plogoff, puis le Carnet, enfin le Pèlerin, le Carnet, etc. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire de résistance qui dit en fait c'est possible aussi de stopper des projets, et qui est transmis de génération en génération, et qui est transmis d'autant plus quand il y a des luttes qui persistent. Et du coup, d'un côté, il y a ça, c'est sûr qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins favorables comme ça du fait de la mémoire collective des luttes, et à permettre ces élans-là. Et en même temps, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre d'un surgissement, quoi. C'est-à-dire, quand on parle de la question du peuple, en fait, pour nous, le peuple, effectivement, c'est ce qui était dit un peu dans l'extrait, c'est pas le peuple un peu qui vote en fonction des sondages d'opinion, c'est pas le peuple de la résignation, c'est le moment où des gens se disent, on a ce sentiment à plein de niveaux qu'on va droit dans le mur, qu'à plein de niveaux, peut-être notre quotidien est aliénant de plein de manières différentes, dans des formes d'individualisme, de consommation, de rapport au travail, la conscience d'un certain désastre environnemental, et que souvent on se sent impuissant par rapport à ça, et que quelquefois des gens tentent quelque chose face à cette espèce de rouleau compresseur, et qu'à un moment donné, il y a une situation qui se crée, typiquement le moment de l'opération César en 2012. En fait, quand on est 200 personnes face à 2000 policiers qui débarquent, on se sent tout petit. Et avant, dans les années précédentes, quand on se disait qu'on menait une lutte face à une multinationale comme Vinci, on se sentait tout petit aussi. Et à un moment donné, il y a un acte de résistance qui crée une émotion, une forme d'appel, et qui a un effet quasi d'aspirateur. D'un coup, alors qu'on se sent tout petit et assez seul, il y a des milliers de personnes qui débarquent. Et là, il y a un imaginaire qui se crée parce qu'il y a une mise en danger collective, quoi. En fait, et le moment où pour nous, la question du peuple, elle devient intéressante, où on peut dire qu'il y a un surgissement du peuple au sens positif où on l'entend, c'est quand il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en danger commune qu'on ne pourra pas oublier, sur laquelle on ne pourra pas revenir. Et en fait, il y a des moments qui permettent de créer ça. Par exemple, ce qui a fait qu'ensuite, on a été capable ces dernières années de mettre en culture collectivement avec des paysans classiques des terres sur des centaines d'hectares, de faire des chantiers ensemble, de repenser même la question de la propriété, la question de la marchandisation de la production, etc. C'est parce que pendant des semaines, des agriculteurs classiques se retrouvent à passer des nuits derrière des barricades avec nous, à chanter, à inventer des histoires, à se raconter leurs histoires personnelles, à rêver d'autres choses, et puis à se dire, ben, ensemble, on va se confronter à la police, c'est dangereux, peut-être on va se faire blesser, peut-être on va se retrouver en prison, mais on le fait. Et ce moment-là, il est inoubliable, enfin, il crée une forme d'intensité sur laquelle on ne peut pas revenir. Et je pense qu'il faut se dire que même dans des territoires où il n'y aurait pas ce terreau favorable, ou peut-être qu'aujourd'hui, là, ça ne semble pas évident qu'une lutte puisse démarrer du côté français du Val-Souza, et aussi bien, à un moment donné, il y a une histoire qui se crée, qui émeut, un moment comme ça de surgissement qui est rendu possible par une tentative, et qui offre cette possibilité-là, quoi, de l'apparition d'une lutte, d'un peuple, enfin de quelque chose qui est en capacité de se confronter à l'ordre existant et de faire survenir autre chose. Merci d'être venu.
Ouais, merci à vous.